Bonjour Lucie, que Dieu vous bénisse. Bonjour Manon, sois bénie. Bonjour Pasteur André aussi. Semble que j'ai quelques problèmes de connexion. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. J'arrive pas à me connecter depuis mon cellulaire, bizarrement. Ok. On va fermer le cellulaire et on va le réallumer après. Donc là, je ne suis pas capable de voir qui se connecte pour l'instant. On va espérer que tout à l'heure, quand je vais me reconnecter, ça va fonctionner. Vous voyez Néné? Alors, si vous voulez que je vous salue, il faut vraiment mettre un petit mot dans la zone commentaire aujourd'hui parce que sinon je ne vous vois pas. J'ai bien peur qu'il y ait une difficulté ce matin. Voir comment ça se passe ici. Je vois Lucie, Manon a été saluée. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour à Marie-Huguette. Bonjour à Marie-André et puis à Farley. Bonjour à Rachel. Alors Rachel qui s'apprête à aller dans le nord. Le week-end pour le 100e anniversaire de sa maman. C'est quand même une marque importante, 100 ans. Une marque, voire très importante. Donc, elle va être à Chicoutimi pour les prochains jours. Alors, je ne sais pas quand tu quittes Rachel, mais on te souhaite un bon voyage. Bonjour aux sœurs qui sont avec toi aussi, la sœur Mona, la sœur Chantal, la sœur Ocilia. Merci Marie-André. Merci Marie-Huguette. Bonjour Guy, sois béni toi aussi. Maria, bonjour. Est-ce que le son est bon pour vous? Juste parce que j'ai... Il semble que j'ai toujours quelques problèmes de connexion. À l'église, on est en train de changer aussi l'internet. Donc, je me demande si je ne vais pas éventuellement faire la même chose. Donc, puisque Rachel m'a répondu demain matin tôt, son départ, ça veut donc dire que vous m'entendez, que c'est une bonne chose. Je vois d'autres. Quelqu'un que je connais pas. Chantal Bérubé, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci Maria. Merci Guy. Donc il semble que le son soit bon pour vous tous. Donc, deux rendez-vous aujourd'hui. Bien sûr, vous êtes déjà connectés pour la bénédiction matinale de ce matin. Et on se retrouve ce soir pour la célébration de la Sainte Cène, de la communion, à 19h sur toutes les plateformes Internet de l'Église. Ni hao, yaoi, yezuai mi. Denis Gérard, bonjour. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on le prend aujourd'hui, on prend la Sainte Cène aujourd'hui, il y a une raison toute simple, parce que Jésus l'a pris aussi le jeudi soir. Le vendredi soir, il était arrêté déjà, il était mis à mort déjà, et il était déjà dans le tombeau le vendredi soir. Donc c'est le jeudi soir qu'il a célébré la Sainte Cène avec ses disciples. Donc juste pour être chronologiquement comme il le faut, donc on le fait aussi le jeudi soir. Mais on pourrait le faire le vendredi, on pourrait le faire le samedi, on pourrait le faire le dimanche, et il n'y aurait pas de problème avec. Mais si on veut juste être en accord chronologiquement, donc voilà pourquoi on le fait le jeudi soir. Du moins à l'occasion de Pâques. Bonjour à la belle-mère. Bonjour à Daniel. Sampa Wende. Wenaning Barka. Que Dieu te bénisse. Bienvenue parmi nous ce matin en direct. Il y a encore 2 ou 3 minutes avant qu'on ne débute. Nathalie, bonjour. Bonjour à la petite famille aussi. Un peu trop de crème dans ce lait. C'est un café en fait, hein. Il est très chaud. Qui je vois d'autre? Bernadette, bonjour. Merci Nathalie. Bonjour Tati. La sœur de mon papa. Elle nous regarde depuis la belle région de Bordeaux. Bonjour Claude. Bonjour à Derma. Bonjour à Déborah, à Léa et à mon ami Marcus. Donc pour ceux qui veulent déjà ouvrir leur Bible, bien sûr on étudie encore le passage dans Exode au chapitre 3, les versets 1 à 6. Bonjour Diane, bienvenue parmi nous. Ça fait un petit moment que je ne te voyais pas. Content que tu sois avec nous ce matin. Pascal, bonjour. Ah, ici, c'est pluvieux, Tati. Il y a même des risques d'orage en après-midi pour Montréal. Mais sinon, c'est très gris et puis pluie intermittente. Actuellement, il doit faire autour de 8 ou 9 degrés. Babette, Andreas, bonjour. Il y aura bénédiction matinale demain, effectivement. Il a fallu que je cherche ce que voulait dire le SDV. Il y a des professionnels ici qui ont des abréviations. Pendant longtemps, je ne comprenais pas ce que voulait dire QSTB ou QSVB. Je cherchais ça, je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à écrire ça? Et ça voulait dire que le Seigneur te bénisse. Voilà. Et SDV, donc, doit vouloir dire si Dieu le veut. Donc, si Dieu le permet, effectivement, il y aura bénédiction matinale demain. Denise, bonjour. Cette fois-ci, c'est Denise de Laval. France, Patrick, bonjour. Almac, bonjour. Donc, on va prier et après ça, on lit le texte qui nous sert de méditation pour cette semaine. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Un temps, Seigneur, où nous plongeons nos regards dans ta parole et où nous savons que celle-ci nous est donnée pour notre croissance, pour l'amélioration, Seigneur, de notre vie, afin que celle-ci soit en accord avec ta pensée, avec ta volonté, avec tes désirs. Alors nous prions, Seigneur, que tu répandes sur nous ta grâce en ouvrant notre esprit, notre entendement et en nous permettant, Seigneur, de recevoir pleinement la parole que tu as préparée de toute éternité pour nous. Nous savons, Seigneur, que les mots qui seront partagés, la pensée qui sera partagée et celle que tu avais désiré nous donner pour aujourd'hui. Alors nous te disons simplement merci. Merci de ta bonté, merci de la richesse, de ta provision, merci de ton soutien et merci, Seigneur, de la formation que tu nous donnes à travers, Seigneur, tes saintes écritures. En toute chose, que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors simplement avant de débuter, vous rappelez que ce soir, on a donc un rendez-vous à 19h. Et au cas où j'oubliais, donc 19h ce soir sur toutes les plateformes Internet, ce n'est pas en présentiel, c'est strictement en ligne. Donc on va célébrer la Sainte Cène. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on le fait le jeudi parce que chronologiquement, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé il y a 2000 ans, lorsque Jésus va prendre la Sainte Cène juste avant son arrestation, c'est donc le jeudi soir que ça se passe. Le jeudi durant la nuit, il est arrêté, il est amené dans la maison du souverain sacrificateur. Le matin venu, on l'amène chez Hérode, on va le juger, et puis durant l'après-midi, on va donc le crucifier. Et avant que le soleil ne tombe et avant que le sabbat ne commence, Jésus est donc déjà mis en terre, mis dans le tombeau. Donc c'est pour ça qu'on le célèbre, non pas le vendredi, mais bien, bel et bien le jeudi soir. Alors c'est ce soir à 19h. Alors je lis le texte pour nous ce matin. Exode au chapitre 3. Verset 1 nous dit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et je relis pour vous le verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Une dernière fois, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Je prends une gorgée. Qu'est-ce qu'on a vu depuis le début de la semaine? Notion qu'on a aussi partagée dimanche matin lors de la prédication. La thématique de cette semaine, expérimenter la présence de Dieu. Non seulement être conscient que cette présence nous environne en tout temps et en tout lieu, mais de surcroît à ça, expérimenter ce genre d'événement marquant dans notre existence, ce genre de rencontre marquante dans notre existence, rencontre avec Jésus. On a vu tout d'abord que c'est une expérience qui se fait solitairement. ou qui se fait individuellement. On peut expérimenter la chose tous dans un même lieu et tous en un même moment, mais cette expérience reste une expérience très personnelle. On pourrait se retrouver dans un même lieu, dans un même temps, et il pourrait y avoir une partie des gens qui ressentent effectivement la présence de Dieu et qui expérimentent une intimité avec Jésus, mais en contrepartie, il pourrait y avoir dans la salle aussi des gens qui n'expérimentent strictement rien à ce moment-là. Le deuxième point, c'est qu'on a vu que c'était une expérience où le temps s'arrêtait. Quand on rencontre vraiment Jésus de façon intime, lorsqu'on a cette expérience toute spéciale d'un tête-à-tête avec Jésus, bien entendu, le temps perd son cours, le temps s'arrête. C'est comme un temps, un moment figé de toute éternité. On a vu par la suite que c'était une expérience qu'il nous fallait découvrir. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît en venant en Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît de façon innée à la naissance, mais c'est le genre d'expérience que on découvre et à travers laquelle le Seigneur s'expose à nous et le Seigneur se laisse découvrir. Mais de surcroît à cela, non seulement c'est une expérience qu'on va découvrir, mais c'est une expérience qu'il nous faut chercher. On a vu que Moïse va se détourner pour voir ce qui se passe. Et une expérience qui change les priorités. Moïse était en train de s'occuper de son troupeau, faisait paître les brebis, les menait d'un point A à un point B. Et Dieu va, en cours de route, changer le cours de la journée pour cette rencontre ineffable entre lui et son serviteur Moïse. Et au verset 4, on nous dit donc que l'Éternel va voir que Moïse se détourne, et en voyant que Moïse se détourne pour voir quelle était cette vision somptueuse du buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas, il va appeler du milieu du buisson son serviteur en disant Moïse, Moïse, et ce dernier va répondre Seigneur, me voici. Premier point ce matin. Lorsque le Seigneur vit que Moïse se détournait pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson. C'est quand même instructif pour nous. Très souvent, on croit que les rencontres spéciales avec Dieu ne sont dues qu'à Dieu et que au calendrier de Dieu. Ici, on se rend compte que Dieu effectivement met la vision. Dieu effectivement fait en sorte qu'il y a ce buisson qui est tout en flammes, mais qui ne brûle pas ou qui ne se consume pas. Donc il attire l'attention de Moïse, mais Moïse va faire l'effort de se détourner, l'effort de quitter ce qu'il était en train de faire pour examiner cette vision et venir à comprendre ce qui s'y passe et à rencontrer Dieu de surcroît. Mais avant que Dieu ne l'interpelle, Moïse va faire l'effort de se détourner, va faire l'effort de se rapprocher du buisson, va faire l'effort de sonder ce qui s'y passe. Et la Bible nous dit, on l'a mentionné durant notre étude des derniers jours, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Il faut donc qu'il y ait un travail de notre part, une quête de notre part à chercher et à rencontrer Dieu. La question pour toi et pour moi, en me levant le matin, quand une nouvelle journée m'est offerte, quand une nouvelle occasion de 24 heures m'est offerte, est-ce que j'ai ce désir d'aller à la recherche de Dieu? Est-ce que j'ai ce désir de me détourner des choses de tous les jours, des choses qui pourraient meubler mon quotidien et meubler ma journée pour dire, je dois avoir une rencontre avec Jésus, alors je me détourne de ce que je suis en train de faire ou de ce que j'aurais mis de l'avant pour avoir ce moment d'intimité avec Christ. Et Dieu honore cette quête. Dieu honore cette recherche de lui, cette recherche de la présence de Dieu est honorée par Dieu qui parle, qui interpelle, qui s'adresse à son serviteur ou à sa servante. Deuxième point ce matin, souvent on regarde le Seigneur comme inaccessible. Il est loin, il est élevé à un tel point qu'on ne peut pas s'approcher de lui. C'est un mensonge du diable. Dieu est facilement accessible. Dieu est aisément accessible, puisqu'il dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. En ayant cette volonté, ce désir, et en entreprenant des actions inhérentes à ce désir, par conséquent, Dieu n'a d'autre choix que de se laisser trouver. Ici, dans le cas de Moïse, il veut tellement s'assurer que Moïse ne passe pas à côté, que lorsqu'il le voit être en train de se détourner pour regarder à droite et à gauche ce qui se passe avec le buisson, c'est Dieu lui-même qui initie la conversation en disant « Moïse, Moïse ». C'est donc effectivement que Dieu a ce désir de se laisser trouver. Dieu a cette volonté qui l'anime depuis toujours d'être en contact avec sa créature, avec sa création. Je me lasse pas de me rappeler que dans le jardin d'Éden, avant la chute de Adam et Ève, il semblait être de coutume journalière, quotidienne, que Dieu, à la fin de la journée, descende, se manifeste auprès de Moïse, auprès de Adam et Ève, et marche avec eux et converse avec eux le soir venu dans le jardin d'Éden. La pire des choses qui soit survenue suite au péché initial de l'être humain, c'est pas nécessairement la mort physique qui s'en est suivie. La mort physique avait été annoncée à Adam et Ève en leur disant « Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors vous mourrez, alors vous deviendrez mortels. » Alors vous connaîtrez quelque chose que vous n'avez encore jamais connu jusqu'à présent, qui est une fin de votre vie. Donc à partir du jour où Adam et Ève ont mangé du fruit, eux et toutes les générations qui ont suivi jusqu'à nous encore aujourd'hui, on est des êtres mortels. On est pour éventuellement mourir, à moins que Christ ne vienne chercher son Église d'ici la fin de notre existence. Mais Dieu a toujours voulu être en contact avec l'être humain. La chose qui s'est rompue de surcroît à la vie qui était éternelle, qui nous avait été accordée, la chose qui s'est rompue, c'est aussi ce lien, ce contact, cette intimité avec Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'elle s'est rompue, cette intimité avec Dieu, que ça ne faisait plus partie du désir de Dieu. La Bible nous dit qu'à travers sa mort, le voile dans le temple s'est déchiré et le livre d'Hébreux va nous dire qu'il a ouvert une nouvelle voie pour nous à travers le voile, à travers son corps. Et ce soir, c'est justement ça qu'on va célébrer lorsqu'on va commémorer la Sainte Cène, le repas de la Pâque ou la communion selon la terminologie que vous voulez utiliser. C'est justement ce corps brisé qui permet à l'homme de retourner, de revenir en contact avec Dieu. Donc Dieu se laisse trouver. Mais quand il dit Moïse, Moïse, on se rend compte que c'est aussi une expérience personnalisée. On a vu au début de la semaine que c'était une expérience individuelle, que je ne pouvais pas rentrer en contact avec Dieu et refiler une partie des bénéfices à ceux qui m'entourent. Le contact et l'intimité avec Dieu, l'expérience de la présence de Dieu, c'est une expérience non seulement individuelle, on peut la faire en groupe, mais ça reste malgré tout une expérience individuelle, et plus encore, une expérience personnalisée ou individualisée. Ici, Dieu ne va pas dire « Aaron, Aaron », il n'appelle pas le frère de Moïse. Il n'appelle pas, et j'ai fait l'erreur dimanche dernier de dire Sarah, Sarah, alors que ce n'était pas Sarah que j'aurais dû dire, mais c'est Myriam, Myriam. Donc il n'appelle pas la sœur de Moïse. Il n'appelle pas Jéthro, le beau-père de Moïse. Il appelle Moïse lui-même. Et dans ce contact que Dieu veut avoir avec son peuple, et dans le contact qu'il veut avoir avec ses enfants, ce sont aussi des contacts et un contact tout à fait personnalisé. Dieu a quelque chose qu'il veut te dire à toi, 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 toi personnellement. C'est très redondant, mais je fais exprès. Dieu veut te parler et Dieu veut se révéler à ta personne de façon toute précise. Souvent, quand je vais prier pour quelqu'un, surtout quand je prie pour quelqu'un qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, je prie en formulant la chose de cette manière. Seigneur, dis le mot qu'il a besoin d'entendre. Au-delà de tout ce que la personne aurait pu entendre, écouter, ou de ce que la personne aurait pu être exposée à l'Évangile, Seigneur, parle-lui avec les mots qu'il a besoin d'entendre. Dieu ne s'adresse pas à tout le monde de la même manière. Dieu ne s'adresse pas à l'ensemble de son peuple et de ses enfants avec un ton monocorde. Dieu va parler spécifiquement sur des sujets tout à fait personnalisés à chacun d'entre nous. Oui, le Seigneur a un discours parfois pour des groupes, que ce soit une église locale, que ce soit un couple, que ce soit une famille, que ce soit une ville. Parfois Dieu va parler sur une ville, parfois Dieu va parler sur une nation, parfois Dieu va parler sur une génération. Mais aussi Dieu veut parler de façon spécifique sur ta vie. Le malheur, c'est que très souvent on n'est pas disposé ou on n'est pas en quête de ce que Dieu peut vouloir dire sur notre vie. Rappelons-nous l'histoire où Jésus va demander à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Jésus fait le ministère depuis déjà 2 ans. Il regarde ses disciples et il dit « Mais qu'est-ce que les gens disent à mon sujet ?» Et les apôtres, qui sont disciples à l'époque, vont répondre « Certains disent que tu es la résurrection de Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es le retour d'Élie. D'autres disent que tu es un grand prophète. » Et Jésus les regarde en disant, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Jésus les interroge à savoir, « Mais vous, mes proches collaborateurs, ceux que j'ai triés et choisis parmi cette génération, qu'est-ce que vous, qui me suivez depuis un certain temps, vous dites à mon sujet ?» Et là, Pierre, c'est là qu'il va se lever en faisant cette déclaration inspirée de l'Esprit-Saint. Et il va dire, « Seigneur, tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus va lui dire, « Cette révélation ne vient pas de toi, mais vient de mon Père qui te l'a donnée. Et sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors, c'est intéressant de savoir que Jésus s'interroge à savoir qu'est-ce que nous on dit de lui. Mais est-ce qu'on prend le temps, est-ce qu'on prend l'occasion régulièrement de se tourner vers Jésus et dire, Seigneur, en contrepartie, qu'est-ce que toi tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis de moi? Quelle est ton opinion sur moi? Quelle est ta pensée sur moi? Et c'est dans de telles occasions, effectivement, qu'on se rend compte que la relation que Jésus veut bâtir avec nous, la relation que Dieu veut bâtir avec nous, est une relation aussi tout à fait personnalisée. Dieu a des choses à dire sur ma vie. Dieu a des choses à dire sur mon comportement. Dieu a des choses à dire sur mon attitude. Dieu a des choses à dire sur ma vie. Dieu a des choses à dire sur mes actions, sur mes paroles, sur mes réactions. Dieu a des choses à dire sur mon humeur. Dieu a des choses à dire sur mes habitudes, sur mes us, sur mes coutumes. Dieu veut me parler et me dire ce qui lui plaît ainsi que ce qui lui déplaît pour que, instruit directement par Dieu, instruit précisément sur ma condition, sur mon état, je puisse fort de cette instruction, changer ce qui doit être changé dans ma vie. Donc c'est une expérience qui est tout à fait personnalisée. Dieu va parler précisément, particulièrement à Moïse, et Dieu veut en faire de même avec nous. Une chose qui m'a étonné dans ce passage, c'est que Dieu ne va pas appeler Moïse en disant « mon serviteur » ou « mon fils ». Non, il appelle Moïse, Moïse. Il appelle par son nom. Et son nom ici a une importance particulière. J'expliquais dimanche que très régulièrement, lorsqu'on parle de certains noms bibliques, on a l'impression qu'ils veulent dire des choses merveilleuses. Il y a plusieurs des sœurs qui sont réunies ce matin, qui s'appellent Marie. Et lorsqu'on regarde l'histoire de Marie, la mère de Jésus, on se dit, comme elle était une femme remplie de grâce, comme elle était une femme toute particulière dans sa génération, elle n'était pas une sainte, mais elle était une femme qui était attachée à Dieu, qui était obéissante à Dieu. On se dit, par conséquent, son nom doit être significatif et son nom doit être merveilleusement beau. En fait, Marie vient de Mara, qui veut dire amère. Marie veut dire amère. C'est pas le plus joyeux des noms et c'est pas le plus beau des noms. Parce que le terme amère dans la tradition judaïque, c'est le fait d'être aigri par rapport à tout ce qui se passe et d'être aigre par rapport à tout le monde autour de nous. Les gens nous côtoient et ils se rendent compte qu'on est une personne amère, on est déplaisant. Lorsqu'on regarde le nom de la sœur de Marie dans l'histoire de Marie, Marthe et Lazare, on se dit « Marthe, ça doit être un beau nom aussi ». Non, Marthe veut dire « rebelle ». Donc, ce n'est pas nécessairement les deux noms les plus merveilleux. Dans ce... Et je m'excuse pour tous ceux qui s'appellent Marie et toutes celles qui s'appellent Marie et Marthe. Vous êtes assurément, parce que vous êtes une nouvelle créature et que le Seigneur agit à travers vous, vous êtes assurément de très belles personnes. Je parle juste de l'étymologie d'origine du terme. Lorsqu'on parle d'Horeb, parce que ça se passe, cette expérience ou cette histoire se passe près de la montagne de Dieu à Horeb. On se dit Horeb. Doit vouloir dire quelque chose de merveilleux. Horeb veut dire désert. Donc la montagne de Dieu, à Horeb, Horeb veut dire désert. Quand on regarde Moïse, Moïse, qu'est-ce que ça veut dire Moïse? Certains font l'erreur de croire que Moïse veut dire sauver des eaux. Parce que dans le chapitre précédent, on nous parle de comment Moïse est né, cet enfant juif qui va être mis dans un panier, qui va être poussé sur l'eau vers la fille de Pharaon, et la fille de Pharaon va secourir cet enfant. On se rappelle que dans cette génération-là, Pharaon avait dit « on va faire mourir tous les enfants, tous les garçons, on va tous les noyer ». Donc il y avait un génocide qui s'opérait contre le peuple juif en disant « ça va être la dernière génération qui va aller de l'avant ». On va tous les faire mourir par attrition. Donc, la maman de Moïse va placer le poupon dans un panier, va le faire flotter jusqu'à la fille du Pharaon. La sœur de Moïse, Myriam, va se présenter et va lui dire « Voudrais-tu que je te trouve une nourrice parmi les Juifs ?» Et puis, elle va aller chercher sa propre maman qui va s'occuper de Moïse. Et on dit, la fille de Pharaon lui donna le nom de Moïse parce qu'elle l'avait sauvé des eaux. Donc, plusieurs pensent que Moïse veut dire sauver des eaux. C'est pas ça. Moïse veut dire noyer. Noyer. Il n'est pas mort noyé, mais il devait mourir noyé. En fait, ce que Dieu nous amène à comprendre dans ce verset-ci, c'est que Dieu nous appelle et nous remémore ce que nous sommes véritablement. Dieu est en train de dire à Moïse, « N'eût été moi, tu serais noyé. N'eût été ma main, tu serais noyé. Et ça revient à ce que je dis régulièrement, où moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis, je resterai et je demeurerai pour l'éternité quelqu'un qui est gracié. Je suis un pécheur, mais un pécheur repentant, repenti et surtout un pécheur gracié. Pour l'éternité, même quand ça fera des millions et des millions et des millions d'années, il n'y aura plus d'années à ce moment-là, puisqu'il n'y aura ni jour ni nuit. Mais pour le restant de l'éternité, mon statut demeurera Florent, un pécheur repenti, mais gracié par Dieu. En fait, lorsque l'Éternel appelle Moïse par son prénom, il est en train de lui dire, regarde, tu devais être mort, tu devais être mort, tu devais être noyé, tu devais être noyé, et c'est moi qui t'ai sauvé. L'expérience de la présence de Dieu, c'est pour celui qui a compris et qui apprécie encore aujourd'hui et qui apprécie à sa juste valeur la grâce de Dieu. On ne se présente pas devant Dieu en pensant qu'il nous doit quelque chose. On n'expérimente pas la présence de Dieu en croyant que ça nous est dû. On n'expérimente pas la présence et l'intimité avec Dieu en disant « Je me suis tellement sacrifié que maintenant Dieu n'a d'autre choix que de me rencontrer. » Pensons un peu au cas d'Esther. Esther va se présenter devant Assuérus, son mari, le roi. Mais Esther, ce n'est pas parce qu'elle est la préférée pour le roi, ce n'est pas parce qu'elle est la reine principale de l'ensemble du royaume que Esther a droit d'audience devant le roi comme elle le veut. Lorsqu'Esther va vouloir aller devant le roi, elle doit annoncer sa présence et le roi doit accepter qu'elle se présente. Elle n'a pas le droit de venir comme elle le voudrait. Elle peut s'y risquer et c'est ce qu'elle va faire, mais c'est au risque de sa vie. Le roi pourrait être offusqué de la rébellion qu'elle manifeste, pourrait être offusqué de l'audace que Esther manifeste, et il pourrait lui en coûter sa vie. Alors, lorsqu'Esther va se présenter devant le roi, elle ne se pointe pas là en disant « Hey, j'ai quelque chose à te demander, il faut que tu me le donnes. Je suis ta femme, obéis à ce que je te demande. » Non, Esther va se présenter et la Bible nous dit qu'elle va s'accroupir devant le roi et elle va attendre quoi? Que le roi tende son sceptre vers elle. Lorsqu'il tend son bâton royal vers elle, il est en train de dire « J'accepte sa présence » et il se tourne vers Esther en lui disant « Que veux-tu me demander ?» Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse en sorte que tu te présentes ici devant moi? Et Esther, lorsqu'elle se présente et elle se met à genoux, elle implore la grâce du roi. Fais-moi grâce de m'entendre. Lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous nous présentons avec cette même attitude. Seigneur, merci de la grâce que tu m'accordes d'être en ta présence. Nous étions tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. La différence, c'est que certains ont connu la grâce de Dieu. Le pécheur repentant qui se tourne vers Jésus et qui fait de Jésus effectivement le roi, le Seigneur et le maître de sa vie, ce pécheur repentant reçoit la grâce de Jésus qui nous permet d'accéder en sa présence. Certaines personnes se présentent dans la présence de Jésus ou accèdent à la présence de Jésus ou voudraient accéder à la présence de Jésus avec cette attitude de « on va parler face à face, yeux dans les yeux, égal à égal. Nous ne serons jamais égaux à Christ. Nous ne serons jamais égaux à Christ. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est le Maître de notre vie. Un serviteur n'est pas plus grand que son Maître. Un serviteur n'est pas même aussi grand que son Maître. Un serviteur est assujetti à son Maître. Et quand je me présente devant Christ, c'est une présence qui doit être remplie de cette compréhension, de cette assimilation de la grâce de Dieu. Je suis un pécheur condamné, tout à fait justement condamnable, mais qui a expérimenté la grâce de Jésus. Et quand je me présente avec cette attitude de gracier, je me présente effectivement avec toute l'humilité et avec tout l'abaissement que nécessite et que requiert d'être dans la présence de notre roi. Dernier point pour ce matin, l'Éternel va dire « Moïse, Moïse » et Moïse lui répond « Me voici ».« Me voici » qui veut dire en fait « voilà, voilà » ou « ainsi ». Tu me demandes « me voici ». Tu me demandes « me voilà ». Tu me demandes « et ainsi je viens en ta présence ». L'expérience de la présence de Dieu est une expérience pour celui qui s'y offre. Lorsque Moïse dit « me voici », il donne son existence à ce Dieu qui s'est présenté à lui et qui l'a interpellé. Tu ne peux pas te présenter devant Jésus, le Maître, en étant toi-même maître de ton existence. Tu ne peux pas dire que Jésus est le maître de ta vie et toi en avoir le contrôle. Tu ne peux pas demander à ce que Jésus vienne illuminer ton existence et ta vie si tu en demeures le maître, si tu en demeures le chef. Dans cette expérience de la présence de Jésus, il y a aussi un abandon conscient et délibéré envers Jésus. Alors la question pour toi ce matin, est-ce que tu crois, un, que Dieu veut se laisser trouver, que Dieu espère, que Dieu désire cette rencontre avec toi? Est-ce que tu comprends que cette rencontre va être aussi tout à fait personnalisée? Et dans l'aspect personnel de cette rencontre, Dieu va te dire des choses parfois que tu aimes, où il va t'encourager, où il va t'encourager à poursuivre dans le chemin. Mais parfois, Dieu va aussi te dire des choses qui lui déplaisent, des choses de ta vie, de ta façon d'être, de ta façon de faire, qui lui déplaisent. Parfois, on veut que Dieu nous parle, mais strictement pour valider nos décisions antérieures, tout simplement pour approuver ce qu'on a envie qu'il approuve, mais pas pour qu'il nous dise nos quatre vérités. Mais si on a l'occasion d'être dans la présence de Christ, c'est une occasion merveilleuse pour savoir ce que le sage parmi les sages, celui qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses et qui fait toutes choses bonnes et excellentes, c'est important de savoir ce qu'il pense de nous afin qu'on puisse obtempérer et changer ce qui est à changer. Enfin, est-ce qu'on comprend qu'on se présente devant lui avec une attitude humble, l'attitude du gracier, l'attitude de celui qui sait qu'il ne devrait pas avoir le droit de rentrer dans la présence de Dieu, il ne devrait pas avoir le droit d'être admissible à la présence de Dieu, et que le seul droit qu'il a obtenu, la seule capacité qu'il a obtenue, cette admissibilité à la présence de Dieu, ce n'est que grâce, 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 grâce et encore grâce. Et enfin, est-ce que je comprends que lorsque je recherche ce moment d'intimité avec Dieu, je ne peux y accéder que si je m'offre totalement à Christ? Seigneur, me voici. Me voici avec ce que je suis, ce qui est honorable, comme ce qui est déshonorable. Je m'offre à toi avec tous mes hauts faits, tous mes moments glorieux, mais aussi avec tous ceux qui sont déshonorants, qui sont désagréables, qui sont un sujet de honte plutôt qu'autre chose. Me voici, je m'abandonne devant toi. Esther s'est présentée devant le roi en disant, il adviendra ce qu'il adviendra, je donne ma vie, je mets ma vie au pied du roi et il décidera ce qu'il veut faire de moi. Et Esther est ce symbole de Christ qui offre sa vie pour nous afin que nous ayons à travers lui sa vie. Et c'est ce soir qu'on va célébrer cette mort de Jésus, ce don de lui-même qu'il a fait pour que toi et moi, pécheurs, conscients de son péché, repentants, repentis, nous soyons alors des pécheurs graciés pour l'éternité. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va prier et après ça, je vous rappelle les annonces du jour. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur de te laisser trouver. Ta parole nous dit que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Merci Seigneur de te rendre accessible. Merci Seigneur de ce que c'est pas par une espèce d'amalgame d'étapes, de séries de machins chouettes, de stages et d'élitisme qui fasse en sorte, Seigneur, qu'éventuellement, un jour, on peut accéder à ta présence. Ce qui nous permet d'accéder à ta présence, c'est ta grâce. Ta grâce qui est accordée aux pécheurs qui se repentent devant toi. Alors, Seigneur, merci de me recevoir. Merci, Seigneur, de ce que tu personnalises notre tête à tête. Ce n'est pas quelque chose que tu répètes de génération en génération, d'individu en individu. Tu veux aussi parler spécifiquement sur ma vie, sur ma façon d'être, sur mon comportement, sur mes paroles, sur les choses propres à chacun d'entre nous. Alors merci Seigneur de personnaliser notre rencontre et notre tête à tête. Merci Seigneur parce que je comprends l'attitude que je dois avoir en ta présence. Celui Seigneur de l'homme, de la femme, du pécheur qui a été gracié et qui est conscient de cette grâce qui sera toujours pour chacun d'entre nous le socle, la base de notre salut et la base de notre existence, même dans l'éternité. Seigneur, tu nous appelles, nous nous offrons à toi. Nous abandonnons notre vie à tes pieds pour que tu en fasses ce que tu désires, comme tu le désires, quand tu le désires. Alors je bénis ce matin ta fille, je bénis ton fils, que ta grâce nous soit accordée, que nous puissions effectivement entrer dans ta présence aujourd'hui. Nous avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, petit rappel important, ce soir, 19h, Sainte-Cène, commémoration de la mort de Jésus. Donc, c'est à 19h, sur toutes les plateformes Internet de l'Église. On vous invite à préparer votre coupe, à préparer votre pain. Quand je dis préparer, ce n'est pas que vous allez commencer à piler du raisin pour obtenir du jus. Là. On veut juste que vous prépariez une coupe avec du jus de raisin ou avec du vin. Et puis que vous prépariez aussi une coupe, un peu de pain pour la partie aussi qui nécessite donc le pain. Mais de surcroît, ça, on veut surtout que vous prépariez vos cœurs. La Bible nous dit qu'on ne devrait pas s'approcher de la table du Seigneur indignement, qu'on ne devrait pas participer à la table du Seigneur indignement. Alors, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez besoin de demander pardon, si vous avez besoin d'accorder pardon, alors on vous invite vraiment à mettre vos vies en règle afin de participer en toute liberté et en toute quiétude à la célébration de la Sainte-Cène de ce soir. Donc, voilà pour aujourd'hui. Demain matin, on se retrouvera pour la dernière bénédiction matinale de cette semaine. Bien entendu, à 8h30 demain matin. Pour ce soir, c'est à 19h. Alors que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et on se retrouve ce soir. Au revoir tout le monde.